Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. J'ai fait le choix cette semaine de continuer à interviewer cet agriculteur que nous avons rencontré la semaine dernière, passionnant, Pierre Leb, qui est installé sur la commune de Villefranc entre Castelnau-Rivière-Basse et Maubourguet. Et nous sommes sur la thématique de l'agroécologie ou d'une agriculture durable et comment, à partir de son expérience, de son regard sur cette agriculture, comment bah, justement on peut partager des notions un peu différentes. Voilà. Merci Pierre de nous recevoir. On
merci
va
à vous.
continuer donc sur la lancée de la semaine dernière, hein, puisque la semaine dernière nous avons évoqué ton exploitation, donc ton installation, une exploitation sur laquelle il a fallu retravailler sur les sols. L'importance des chèvres, du fumier pour avancer sur cette structure. Et puis cette semaine, bah, on va peut-être un peu parler aussi de la bière, non? Passer un peu de la bière, parler aussi bah, de ton regard sur la crise agricole actuelle. Et puis aussi, puisque bon, Pierre, il n'est pas tout jeune, il est comme moi. Et un petit peu ta vision sur la transmission et sur donc, l'installation peut-être de jeunes pour continuer.
Oui, donc effectivement, en 1996, j'ai monté une brasserie. Une brasserie, ça faisait 15 ans que j'étais installé. Et on avait déjà fait le tour des problèmes de fromagerie. On est un petit peu maso, donc on aime bien creuser les problèmes et s'occuper d'une nouvelle fermentation. Donc j'ai un atavisme, puisque je suis d'origine belge, né à Bruges, et j'étais très motivé par la brasserie. Une annonce est parue. Et je me suis rendu en Belgique, j'ai visité les microbrasseries, je n'y connaissais rien, absolument rien. Et j'ai dit au gars, bon, je ne sais pas me décider. Et il m'a fallu 6 mois encore de réflexion. Et on a acheté cette microbrasserie. Et comme j'étais en fermage, j'avais un bail à long terme, il n'était pas question pour moi d'acheter du malt à l'industrie et de le transformer. Ça, c'est de l'artisanat. Donc j'ai tenu à apprendre à faire le malt. Et donc là, je me suis lancé dans une seconde aventure. J'ai appris deux métiers en même temps, voilà, la malterie et la brasserie. Et c'est ce qui se pratiquait en Belgique autrefois. Mon père m'avait raconté, dans les villages, il y avait la malterie et plusieurs brasseries. Voilà, tout le monde faisait ça. Il y avait 3500 brasseries sur l'équivalent d'un département français, quoi. Voilà. Donc, j'ai un aïeul qui était producteur de houblon, avec 300 hectares, c'est pas rien. Et donc, voilà, c'est un atavisme. J'ai eu l'impression de retrouver l'esprit de mes grands-parents. Voilà. Et donc, je me suis amusé à construire cette micro-brasserie. J'ai appris la soudure inox au TIG. Et voilà, j'ai fait réaliser mon tableau de pontage. Enfin, c'est une petite usine. Très sympa, très fonctionnel, avec un CIP, lavage en place qu'on appelle. Voilà. Et après, bon, la fabrication de la bière a été très intéressante aussi. Ce n'est que 20 ans après que je suis allé à l'école, à l'école de brasserie à Nancy, pour apprendre à faire la bière, pour voir s'ils faisaient comme moi. et j'ai appris en maltage, j'ai appris pas mal de choses, c'est toujours très intéressant. Mais ce qui m'a plu dans cette activité, c'est que les chèvres aient consommé tous les déchets de la brasserie. Alors, c'est principalement la drèche, une fois que le malt a été transformé en sucre, et les radicelles de malt, puisque je fais le malt, les grains trop petits qu'on ne met pas en germination, tout ça, ça va aux chèvres, et les levures, et c'est le régal, ça, les levures de fond de cuve qu'on donne à boire aux chèvres. Et ensuite, les chèvres, ben, comme je vous ai dit la semaine dernière, elles font du fumier qui fait du gaz. Et ce gaz nous permet de sécher le malt, de faire la bière, puisque c'est un brûleur à gaz qui permet de chauffer et de faire l'ébullition. Et on a également deux voitures qui fonctionnent au gaz, méthane, comme il se pratiquait dans le sud-ouest où on avait 50 000 voitures qui roulaient au gaz. On a oublié ça, les gens ils savent plus. Et c'était le gaz de lac à l'époque. Et aujourd'hui, on est vu comme, comment dire, un mec anormal qui va à une station de gaz où il n'y a personne, quoi. C'est très bizarre, on se croirait en temps de guerre. Et moi, j'aime bien. Non pas la guerre, mais c'est le fait de ne pas faire comme les autres. Voilà.
Alors Pierre, juste pour nos auditeurs, parce qu'on a parlé de fromage, de chèvre, on a parlé de bière, donc pour nos auditeurs, il est possible qu'ils viennent acheter ces produits chez toi?
Oui, la ferme est ouverte. Dans la salle de brasserie, on a le petit magasin, la vitrine avec les fromages. On accueille les personnes. Comme je suis très mauvais commercial, on ne fait quasiment pas de publicité. Il y a juste un panneau discret en bord de route. Mais il n'est pas fluo, rassurez-vous. Mais ça n'empêche que voilà, les gens sont satisfaits de venir à la ferme. Et on ne les matraque pas avec des prix élevés Voilà, comment on peut les trouver, comment on trouve nos produits dans les magasins. Voilà.
Alors voilà, chers auditeurs, c'est très simple. Moi, je suis venu du premier coup sans me tromper. Vous prenez la route direction Bordeaux, vous avancez après Maubourguet, vous allez arriver un petit peu avant Castelnau-Virbas. Sur votre gauche, vous allez trouver un panneau, effectivement, ERL Lab avec la bière, etc. Vous suivez ce petit chemin et on arrive tout droit jusqu'à l'exploitation de Pierre. Alors Pierre, on va continuer dans notre interview. Donc on a parlé effectivement de la bière. Et puis j'aurais voulu avoir un petit peu votre regard sur la crise agricole actuelle, sur la jeunesse. Comment investir ce métier de l'agriculture fort de ton expérience?
Mais l'agriculture aujourd'hui, c'est comme les tracteurs sur une autoroute. Il y a un bouchon plus loin, une impasse, ça ne passe pas. Donc, soit on monte pas sur l'autoroute, soit on essaie de s'en sortir rapidement, quoi. Le modèle agricole, il est complètement obsolète. Comme je vous disais la semaine dernière, le fait de prendre des déchets industriels et des explosifs pour faire de l'agriculture, c'est nul. Le sol, il est vivant et il faut le regarder. Et donc, ces temps-ci, je me forme à la bioélectronique de Vincent. Et c'est un peu difficile, à 69 ans, de revenir dans les bouquins, les visios. Mais c'est Louis-Claude Vincent et Jeanne Rousseau qui ont mis à la portée des observateurs les éléments de mesure. Donc, il s'agit du pH, de la résistivité, le calcul du RH2, voilà. Et avec ça, on sait diagnostiquer si un sol sait mobiliser ses minéraux, on va dire, si un animal digère bien, s'il est en bonne santé, et qu'est-ce qui est malade, qu'est-ce qui ne va pas. Et pour les gens, pour ceux qui veulent soigner des personnes, c'est une bonne aide également. Voilà. Et donc, c'est la bioélectronique de Vincent, et je conseille à tous de se former. Alors, vous dire, mais c'est pas de l'agriculture, ça. Mais si, justement, au lieu d'aller acheter des produits pour les épandre dans les sols, il faut plutôt regarder le sol, y réfléchir. Donc, ces outils comme la bioélectronique de Vincent, sont là pour nous aider. C'est des trucs qui ne sont pas enseignés à l'école, hein. Ça, je vous dis, c'est pas enseigné. Et là, l'école d'agriculture a beaucoup de retard. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut avancer, il faut observer ce qui se passe dans la nature, et tout y est. Alors par rapport au réchauffement climatique, on va se dire que tout change. Certains vont se plaindre d'un excès d'eau, d'autres d'un excès de sécheresse, de conditions météo plus violentes. Mais c'est pas ça seulement qui compte, quoi, je dirais. La nature, moi, on n'a pas à s'inquiéter pour elle. Elle va retomber sur ses pieds si elle en avait. Elle est en équilibre. Voilà. Et donc, que faire quand on est agriculteur? Ben, ne pas faire comme les autres, c'est déjà un bon point. Essayer de voir qui c'est qui consomme nos produits, donc essayer de faire une vente un peu plus directe, mais ça peut prendre du temps. C'est pas évident, hein. Aller sur un marché, c'est moi j'aime pas ça. Mais voilà, il y a différents circuits, manières de faire. Il faut faire un choix. Il faut pas en faire trop non plus parce que se disperser, c'est pas la solution. Et ensuite, il faut avoir une bonne gestion. Il faut savoir ce qu'on a dépensé, ce qu'on a. Alors nous, en agriculture biologique, eh bien, écoutez, les charges sont réduites énormément. Par contre, avec mes travaux sur la méthanisation, voilà, mais on a des investissements qui sont assez élevés que d'autres exploitations agricoles n'ont pas. Parce que je fais un peu de recherche et développement, donc je prends des risques sur Voilà, sur le lavage du gaz, comme j'ai fait, et sur voilà, sur les constructions récentes que j'ai pu mettre en place. Il y a quelques risques, mais bon, après tout, ça passe et sans casser, ça marche.
Alors Pierre, on va peut-être aller sur la fin de cette émission et parler un petit peu plus de la transmission. Hein, vous l'avez dit, vous avez 69 ans. Aujourd'hui, vous avez bien sûr investi cette idée de la transmission de l'exploitation, une exploitation qui est durable, telle qu'on peut le percevoir et qu'on peut l'entendre de votre bouche. Et donc, un petit peu, nous dire un petit peu votre vision sur cette transmission et vos souhaits.
Oui, moi, ça me ferait beaucoup de peine si je devais vendre la ferme parce que, et arrêter tout. Parce que voir revenir un tracteur avec sa cuve de Roundup derrière, tout ça, ce serait horrible. Alors qu'on a redressé, on a remonté les taux de matière organique à 3%, non, ce serait lamentable. Donc. Et puis c'est des terres difficiles, il faut savoir les travailler dans le bon sens. Et non, ce que je souhaite, c'est de transmettre, donc laisser cette ferme autonome en énergie. Et on n'a pas beaucoup parlé, bon, il y a quand même la production d'électricité, la production de gaz, équivalente à 20 000 litres de fioul par an, donc ce n'est pas du tout anodin. Et la conservation de l'azote, donc c'est quand même des engrais qu'il ne faut pas acheter. Et donc c'est une autonomie à beaucoup de points de vue. Et donc cet outil, il est dispo. Là, moi, j'ai prévu de le mettre en fermage à long terme. Pourquoi à long terme? Parce que j'ai une fille également et que dans 25 ans, je souhaite qu'elle puisse, si elle le souhaite, récupérer les terres pour les vendre, tout simplement, si elle en a besoin, quoi. Mais il faudrait que ce modèle persiste, quoi. Voilà. Il y a un bel outil de fonctionnement qui n'est pas terminé, puisqu'on aura une fromagerie neuve à réaliser, à construire. Mais il y a quand même une clientèle, il y a un savoir-faire, voilà, il y a un modèle qui est à reprendre et à suivre. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a mon neveu qui est installé depuis 2013, c'est Paul Émile. Et il y a un Nadège qui arrive, qui est en cours d'installation, et on l'a salarié depuis un an et demi, je crois, avec nous, pour qu'elle ait le temps de savoir si vraiment elle souhaite s'installer. Et donc, et ensuite, il y a quand même une autre place, en tout cas, pour quelqu'un d'autre, pour remplacer Annick, mon épouse, qui fatigue aussi, et voilà.
Merci Pierre, merci infiniment pour ces deux épisodes, ce beau témoignage plein d'espérance parce que moi je trouve que justement on manque de gens comme vous, de témoignages comme ça pour redonner un petit peu d'espoir à une agriculture qui s'est un peu perdue comme vous l'avez expliqué hein, et qui a besoin de changer son chemin. Et vous êtes la preuve vivante depuis longtemps déjà qu'il y a d'autres chemins tout à fait durables, viables, vivables qui sont possibles. Et merci infiniment pour ce témoignage. Et surtout, chers auditeurs, n'hésitez pas, si vous montez vers Bordeaux, que vous voyez ce panneau sur votre gauche, entre Maubourguet et Cassaigne-sur-Verbasse, donc l'Èbe, la bière, le fromage, arrêtez-vous. Merci Pierre, à bientôt.
Merci beaucoup.